les héroïnes. Le podcast pour tous les enfants qui poussent à rêver grand. À écouter avec ses parents. Pour sans ses parents.
Il était une nouvelle héroïne, Peggy, née en Haute-Savoie, à Évian-les-Bains, il y a un demi-siècle. Et si son histoire commence en haute montagne, c'est en haute mer que je t'emmène découvrir Peggy l'aventurière. Petite, dans la cour de récréation de l'école, Peggy joue plus avec les garçons que les filles.
Hé hey Peggy, t'es un garçon manqué, t'es un garçon manqué.
Non, tu dis n'importe quoi Gaston. Je suis Peggy, une fille réussie, arrêtez de m'embêter. C'est pas parce que je n'aime pas jouer avec les poupées et les dinettes que je suis un garçon. Moi je veux jouer à l'aventurière.
Après l'école, Peggy fait le osotogari au judo, fait le service à la cuillère au tennis, un salto arrière à la gymnastique, nage le dos crawlé au cours de natation et fait du touchousse l'hiver au ski. Et quand Peggy tombe sur le tatami ou rate une balle, ses parents lui répètent cette phrase de Socrate, un philosophe grec de l'Antiquité.
La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où l'on est tombé.
À 9 ans, Peggy aime lire les histoires d'héroïnes rebelles comme...
Celle qui fut marquise des anges pour les truands de la cour des miracles. Marquise de Plessis-Bellière, maréchal de France pour les seigneurs de la cour de Versailles. Et pour tous et toujours, merveilleuse Angélique.
Angélique, marquise des anges... Et comme celle des nouvelles héroïnes. À 10 ans, dans sa chambre, est tapissée cette phrase de Sénèque, encore un philosophe grec de l'Antiquité.
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.
Je te laisse songer. Adolescente, elle se passionne pour les récits d'aventure d'Alexandra David Neil ou Ella Maillard, qu'elle dévore. Peggy voit ainsi sa vie comme un immense terrain de jeu. Stop !
Bonsoir, vaste public.
Maître Indiana Capello von Band des aventurières perdues.
Parfaitement.
Qui est Ella Maillard ? Ella Maillard est suisse et naît en 1903 à Genève. À l'école, on ne peut pas dire qu'Ella Maillard brille comme une étoile. Plutôt que de faire ses devoirs, Ella préfère le sport et part tous les week-ends faire du ski. En Suisse, les montagnes ne sont jamais très loin et jamais trop hautes. Et quand les neiges ont fondu, Ella apprend à naviguer sur le lac Léman. À peine 10 ans, elle apprend à barrer un voilier avec son amie d'enfance, Hermine, surnommée Miette. Cette passion pour la voile la mène aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. Ella concourt en voile sur un dériveur solitaire. Elle est ainsi la seule femme de l'épreuve et la plus jeune. Que ces sports soient réservés aux hommes, elle s'en moque. Elle projette même de traverser l'Atlantique, mais le projet tombe à l'eau. Ella ne veut pas se marier, ne veut pas d'enfants. Elle veut juste être libre et part explorer la Russie. Elle parcourt 350 km à pied du nord au sud. Un périple qui n'est pas de tout repos puisqu'elle est violemment mordue par un chien de berger. Une blessure qui lui fait faire un détour par l'hôpital. Heureusement, le chien n'avait pas la rage et elle décide de poursuivre la route, la jambe enflée. Après la Russie, Ella part en Chine et traverse les déserts d'Asie centrale. Elle voyage sans bagages, à dos de chameau, sans autorisation, à l'aventure, avec un sac de farine d'orge grillée, un peu d'ail, des raisins secs, comptant manger ce qu'elle trouve sur son chemin. Bref, une vraie aventurière qui passionne notre jeune pays.
Au revoir et repartons en poésie.
Pendant toute son enfance, Peggy se nourrit des récits d'aventure et les livres de Téric Tabarly, un navigateur français et marin de légende. Tout cela va confirmer la passion de Peggy pour la mer. 18 ans, Peggy voit Florence Artaud arriver en tête de la Route du Rhum, une première pour elle.
Mission accomplie, Florence Artaud a battu son record de traversée de l'Atlantique en solitaire.
16h cet après-midi, Florence Artaud peut enfin laisser éclater sa joie. Première femme à avoir traversé l'Atlantique en moins de 10 jours.
La quatrième Route du Rhum est gagnée par Florence Artaud.
Peggy ne veut plus attendre et se rapproche de la mer en faisant ses études en Angleterre et très précisément à Plymouth, pas trop de mousse, dans la Moss, pour naviguer tous les week-ends. À l'issue de son diplôme, elle part à Brest, en Bretagne pas grande.
Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest, la rade, le port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue, Jean Jaurès.
Un jour, alors qu'elle sèche un cours de gestion à l'école, elle visionne un documentaire à la télévision sur une traversée du Pacifique à la rame, qui déclenche ainsi la suite de son histoire. Pour elle, c'est ce qu'elle attend depuis trop longtemps. L'aventure avec un grand A.
Si un homme peut le faire, pourquoi pas moi ? Bon, ok, ça prendra du temps, mais je veux en être. Être la première femme à traverser l'Atlantique à la rame. Je vais chercher des sponsors, étudier les options de bateau. Allez l'Atlantique, j'arrive !
Mais très vite, Peggy doit faire face à des commentaires sur son jeune âge et son manque d'expérience.
Vous êtes complètement inconsciente.
Oh là, je vous laisserai pas partir.
Non mais
si
attends,
vous avez
dit ça, elle a des bras à soulever des cotons-tiges, puis elle veut partir en mer.
C'est un boulot de mec, ça. Faut avoir ta force.
Oh là, je vous laisserai pas partir si vous étiez ma fille.
Pendant un instant, elle imagine réaliser ses traversées en double. Mais un autre navigateur, Olivier de Carsozon, le lui déconseille. Et Olivier sait de quoi il parle. C'est un navigateur qui a réalisé un tour du monde en solitaire en 71 jours. Mieux que Jules qui, en 80 jours, depuis reste Verne.
Cette traversée de l'Atlantique doit être une aventure personnelle, intime, que tu dois vivre seul. Si ton seul obstacle, c'est ton manque d'expérience en haute mer, t'as qu'à faire une traversée à la voile en équipage.
Peggy prend Olivier au pied de la lettre, démissionne de son travail et part réaliser une traversée de l'Atlantique à la voile, mais pas toute seule, en équipage. À bord, c'est dur. Le skipper ne ménage pas Peggy.
Peggy, ne fais plus jamais ça. Tu fais plus jamais ça, Peggy. Peggy, à bâbord.
Mais Peggy ne baisse pas les bras. De retour en France, Peggy investit toutes ses économies dans l'achat de son bateau, beaucoup trop fière pour demander de l'aide à ses parents. Déterminée, elle trouve un job pour aller éplucher des brocolis à côté de Brest, de 4h du matin à 13h tous les jours. Avant de trouver un job à Paris-Brest, enfin, juste à Paris. La semaine, métro, boulot, dodo à Paris et le week-end à Brest pour travailler sur son bateau.
Super, j'ai mon premier sponsor.
À 24 ans, Peggy monte sa société et a bien en tête de devenir la première femme à tenter cette aventure, celle de traverser l'Atlantique à la rame. Le grand jour est arrivé. Nous sommes le 10 mars 1998. Peggy monte à bord de son bateau dans un port des Canaries. Son bateau, c'est un bateau de 8 mètres de long, 1 mètre 40 de large, 300 kg sans Peggy et 650 kg avec tout le matériel, plus Peggy. Alors il lui faut un compas électronique, un compas de cloison, un compas de relèvement, des cartes marines, un GPS, un téléphone portable, des panneaux solaires, une torche, trois paires d'aviron, un siège de la cheville, trois torches, une lampe frontale, une foulée, deux sacs de douchage, des boulons, des câbles à souder, mallette complète préparée par le docteur Le Rouzic, crème solaire, du stick à lèvres, crème pour la main, deux brosses à dents encore, du dentifrice, des lingettes, brosse à cheveux, sachets de huile au figuier, des pâtes à la volaille au curry, des crèmes dessert vanille chocolat, des barres vitamines, friandises, des appareils photo, 20 litres de boissons sucrées, d'amandes, de l'eau désalinisée, une boîte, lecteur CD, matériel de deux paires de lunettes, un masque, un tuba, 80 balises et feu de détresse. C'est bon, capitaine Peggy, le compte est bon? Alors que l'aventure commence. Quand elle ferme la porte derrière elle, elle sait qu'elle ne peut plus faire marche arrière et pense à une citation d'André Gide, un écrivain et prix Nobel.
L'homme ne peut découvrir de nouveaux océans tant qu'il n'a pas le courage de perdre de vue la côte.
Et voilà. L'aventure de Peggy commence. Est en marche. Enfin, sur l'eau. Bon, tu trouves pas que Peggy, elle aime beaucoup les citations pour s'inspirer?
Mon Atlantique est devant moi. Je suis prête à larguer les amarres.
Pendant 78 jours, Peggy maîtrise la technique de son bateau. Bâbord, tribord. Quand elle a des coups de mou, elle écoute de la musique. Et le 27 mai 1998, Peggy est à seulement 130 km des côtes de la Guadeloupe, de sa ligne d'arrivée. Il est 7 heures du matin.
Allez, encore un petit effort, Peggy. On y est presque.
Des îles, les vagues sont d'une houle de 6 mètres de haut, comme deux étages d'un immeuble. La mer est violente.
Vite, vite, faut que j'attrape ce harnais. Allez, Peggy. Tu n'as pas fait tout ça pour rien.
Peggy met vite son harnais pour bien s'attacher et ne pas être emportée par la mer agitée.
Mais que se passe-t-il ?
En un éclair, elle est projetée par-dessus le cockpit et se retrouve sous le bateau renversé. Elle venait d'ouvrir un hublot pour sortir ses avirons. Peggy se retrouve coincée sous le bateau par le harnais qui l'empêche de remonter à la surface. Elle arrive à se dégager avant de suffoquer.
Impossible de redresser le bateau, j'y arrive pas. Si j'essaye encore, allez Peggy, allez. Impossible, c'est lourd. Et il pèse des tonnes avec l'eau qui s'est engouffrée. Bon, faut que je replonge dans le cockpit pour trouver la balise de détresse. Comme ça, je pourrai appeler à l'aide. C'est bon, je l'ai. D'ici 2h30, je serai tirée d'affaire.
plus rien d'autre à faire pour Peggy maintenant que de se cramponner à la carène et d'attendre les secours.
Ne marchait pas. Bon, allez, j'y retourne. Il faut que je replonge pour pouvoir récupérer l'autre valise. Bon, cette vague, elle est trop haute, là. Celle-là aussi. À la prochaine, j'y vais.
Peggy a peur d'être assommée par les vagues trop hautes à l'intérieur de la cabine du bateau. Il est désormais 16h et dans une heure, le soleil se couchera.
En train de couler. Pitié, non. À l'aide. Aidez-moi, non. Je veux pas mourir maintenant. Je veux pas mourir maintenant. Non.
Peggy attend les secours assise à califourchon sur la coque. Elle est frigorifiée, exténuée et se sent abandonnée. Quelques mètres plus bas, des requins de 4 mètres se délectent des réserves de nourriture lyophilisée qui s'échappent du bateau.
Pitié ! Sauvez-moi ! Sauvez-moi ! Sauvez-moi ! Sauvez-moi !
Bruit d'avion au loin.
Léo ! Léo ! Léo ! Léo ! Zut, l'avion ne me voit pas. Allez, pitié !
Peggy doit trouver une solution plus vite. Ses yeux brûlent, elle ne voit presque plus rien à cause de la tombée de la nuit.
Bon, il reste des fusées de détresse, des fumigènes dans les coffres du bateau. C'est ma dernière chance. Mais si j'y retourne, l'eau va s'infiltrer.
Peggy n'a plus rien à perdre. Elle les récupère après plusieurs tentatives. Mais l'avion est parti. Quand soudain, elle envoie les fusées de détresse.
Pitié !
C'est bon. L'avion lui largue un canot de survie à moins de 5 mètres. Mais Peggy n'a plus de force. Elle est récupérée par un cargo de 250 mètres de long et haut de 20 mètres. Elle doit attendre la corde, mais c'est à bout de force qu'elle sera sauvée. Après 79 jours de mer, 5500 km à la force de ses bras et ses heures interminables de survie dans une mer déchaînée, Peggy doit accepter cette victoire inachevée à seulement 120 km de l'arrivée. À peine le pied à terre, Olivier de Carsozon l'encourage à repartir. Lors d'un déjeuner chez lui, elle lui annonce qu'elle va publier un livre sur cette traversée et lui rétorque.
Tu as failli réussir. Ça ne te dérange pas d'écrire un bouquin sur quelque chose que tu n'as pas terminé ?
En pleurs, puis en colère, elle lui répond.
Je suis pas sur un bateau à voile de 35 mètres de long, avec un mât grand comme l'Arc de Triomphe. Le mien, il mesure 8 mètres. Tu sais, c'est une coque de noix propulsée à la seule force de mes bras.
Elle décide de repartir. Elle part le 18 novembre 1999 des îles du Cap-Vert au large de l'Afrique. Elle rame 10 à 13 heures par jour. Une nuit, un chalutier l'aborde.
Hé hey oh, tu veux qu'on rame ensemble ? Oh, la petite sirène, tu veux découvrir le monde des hommes ?
Balance une dizaine de pêcheurs.
Mais cassez-vous, laissez-moi tranquille !
Pendant la traversée, pour ne pas se sentir seule, elle chante à tue-tête, écoute son baladeur et les bandes-sons de ses films préférés des années 90. Nous sommes le 4 décembre 1999 et l'américaine Victoria Murden vient officiellement d'être la première femme au monde à traverser l'Atlantique à la rame.
Mais non, c'est pas vrai. C'est moi qui ai osé la première. C'est moi qui ai ouvert la voie.
Elle est comme enfermée dans le tambour d'une machine à laver en marche. Les vagues sont toujours plus violentes. Elle se sent comme un petit rien du tout sur l'océan et a peur de revivre l'enfer de la première traversée. Après 800 000 coups de rame, elle accoste le 5 janvier 2000 en Martinique. Ses fusées de détresse se transforment en émouvant feu de Bengale de la victoire.
Papa ?
Non, mais plus. Oh là.
Tu vois, je t'avais promis.
Peggy Boucher est la première Française à avoir traversé l'océan Atlantique à la rame et la première femme à avoir osé le faire. Voilà, c'était l'histoire de Peggy Boucher, ou plutôt le début de la grande histoire de sa vie d'aventurière. J'espère que ça t'a plu. Psst, si tu fermes les yeux, je vais te dire ce que Peggy m'a confié pour toi.
Ose toujours, cède parfois, ne renonce jamais. Crois en tes rêves et réalise-les rapidement. On vieillit quand le nombre des regrets a dépassé celui des rêves.
L'histoire de Peggy a été écrite et racontée par Céline Steyer, c'est moi, avec à la prise de son et à la réalisation sonore Jean-Baptiste Fourré. Je tenais particulièrement à remercier toutes les voix qui ont magnifié son histoire. Merci à Amandine, Tiphaine de La Voix des Lucioles, Philippe, Alparzan, Kenan et Gilles. J'aimerais beaucoup que tu me dises ce que tu as pensé de cette histoire. Dis-le-moi par mail à l'adresse hello@nouvelleshéroïnes.fr, sur Instagram ou si tu m'écoutes sur Spotify en cliquant sur le bouton « Répondre » situé sur la page de l'épisode. Demande à un adulte.
Nouvelles héroïnes, le podcast pour tous les enfants et pour les grands.